Et maintenant, on va prouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je vais vous parler.
Je vous écoute.
Alors, c'est pourquoi ?
Par curiosité, pour voir. C'est pour ça que je t'ai suivi, bonhomme.
Curiosité, l'info locale autrement. C'est sur Canal B du lundi au vendredi à 17h40 et en rediffusion le lendemain à 9h40.
Oh, 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 Merry Christmas.
Et toute la semaine, on vous donne des conseils pour des cadeaux pas bêtes à l'approche des fêtes. Aujourd'hui, direction l'atelier de Catherine Trochu, elle est céramiste ici à Rennes et vous pouvez la contacter si vous êtes intéressé via Facebook et Instagram. On pourra aussi, on dit tout de suite, la retrouver au mois d'avril aux Journées européennes des métiers d'art du côté de Mordel. Après ce reportage, vous entendrez également la chronique de la CIMAD, association de soutien aux personnes exilées, puisque Noël ou pas, des personnes sans papiers sont retenues toute l'année entre les murs du centre de rétention administrative. Curiosité, c'est parti.
J'ai travaillé pendant plus de 25 ans dans l'administration et la gestion d'entreprise. J'ai eu un petit souci avec mon employeur en 2012. Et donc, je me suis retrouvée sur le marché de l'emploi avec ou la possibilité de continuer à travailler dans la gestion des entreprises, ou alors la possibilité de trouver autre chose. Je m'appelle Catherine Trochu, j'habite à Rennes et depuis 2013, je me suis mise à faire de la céramique. Bon, j'avais un peu plus de 50 ans, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas, plutôt que d'essayer de trouver quelque chose qui ne me conviendra pas. Puis c'est toujours compliqué de trouver un travail à partir d'un certain âge. Donc j'ai décidé de faire une reconversion vers la céramique. Alors, pourquoi la céramique ? C'est vrai que j'en avais fait déjà un petit peu, mais je ne peux pas dire que j'avais vécu les mains dans la terre toute petite, etc., etc. C'est un choix qui s'est un petit peu, je ne sais pas, c'est une idée que j'ai eue. Un peu comme ça, et donc je l'ai conforté en allant prendre quelques cours dans un atelier à Rennes pour me dire, ouais, est-ce que c'est bien ça que je veux faire? Et donc, très rapidement, ça a conforté mon désir, mon projet, et donc je me suis mis en relation avec Mathieu Liévois-Séné. Et donc, sur 2013-2014, j'ai fait une formation à l'école Créamique à Séné. Et puis, pendant un an, donc globalement à peu près de juillet 2014 à juillet 2015, j'ai produit sans rien vendre pour me créer une collection. Et à partir de juillet 2015, je me suis installée et j'ai commencé à vendre mes pièces, au tout début à l'atelier et par la suite sur des salons, sur des marchés, dans des boutiques.
Quelle technique est-ce que vous utilisez ? Quels matériaux ?
Alors, je travaille essentiellement la porcelaine. Et donc, j'ai deux lignes de création, une ligne art de la table et une ligne plus sculpture décoration. Alors, pour faire court, la ligne art de la table, c'est essentiellement, je fais essentiellement les pièces en porcelaine de coulage. Donc, je fabrique moi-même mes moules à partir de pièces que je modèle ou que je tourne, puisque j'ai un tour également. Donc, je fabrique mon moule et puis donc, je travaille avec de la porcelaine de coulage que j'achète en poudre, que je mélange à de l'eau, que je coule dans mes moules en plâtre, je démoule, je fais une finition. Il y a beaucoup de finitions sur ce type de pièces. Après, je cuis mes pièces une première fois à 980 degrés. Après, je pose des émaux. Et après, je recuis entre 1260 et 1280 degrés. Ça, c'est la ligne art de la table. Pour la ligne plus décoration sculpture, donc ce sont des vases, ce sont des petits personnages, ce sont des grandes coupes. Là, je travaille plus à partir de plaques de porcelaine ou alors je fais également du modelage.
Comment on explique pour vraiment les novices, du point de vue de la matière, ce que sont la porcelaine et les émaux ?
La porcelaine, ça fait partie, je dirais, on travaille essentiellement trois terres, c'est soit la faïence, soit le grès, la porcelaine. La faïence, c'est cuit ce qu'on appelle à basse température, c'est-à-dire que c'est maxi 1100 degrés. Et la porcelaine et le grès se cuisent maximum à entre 1260 et 1300 degrés, en gros. Et donc, on dit que c'est de la haute température. Donc, c'est la grosse différence entre ces matières. Et pour les trois, on peut poser des émaux. Alors, sur la faïence, ça sera des émaux qui cuisent à basse température, et pour le grès et la porcelaine, la haute température. Et l'émail, si vous voulez, c'est composé de différents éléments, feldspath, silice, oxyde ou colorant de masse, enfin, et tout un tas d'autres de petits éléments qui permettent à l'émail de fondre à la température à laquelle on va cuire. En l'occurrence, pour la porcelaine, moi, pour les émaux que j'utilise, fondent entre 1260 et 1280 degrés. Tout simplement. Donc l'émail, généralement, vous le posez après avoir fait une première cuisson, ce qu'on appelle le dégourdi en céramique.
Il faut qu'on explique aux auditeurs qu'on se retrouve dans votre atelier, qui est aussi chez vous. Et comment est-ce qu'on peut décrire là, ce qui nous entoure ? On est dans la salle à manger ?
On est dans la salle à manger et sur votre droite, vous avez l'ancien salon qui maintenant est mon atelier. Donc le four est dans la cuisine, normal. Donc c'est à petit four, entre guillemets, petit four par rapport à la production que j'ai. C'est un four qui fait 60 litres, mais c'est quand même un grand four par rapport à la taille de la cuisine. Donc, c'est un four spécial, bien entendu, qui monte jusqu'à 1300 degrés. Et donc, j'émaille dans la salle de bain. Et donc, je produis mes pièces, je les modèle et je les coule dans l'ancien salon qui est mon atelier. Alors, effectivement, les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais c'est un petit peu chargé. C'est un euphémisme.
On est entouré d'objets.
Alors, on est entouré, non seulement il y a tous les objets que j'ai produits et que les gens peuvent acheter, mais il y a également la production en cours, donc des pièces qui sont crues ou qui ont déjà subi la première cuisson et d'autres qui sont émaillées. Parce que je travaille deux émaux, donc avec le premier émail, et ensuite je fais la décoration avec un autre émail. Donc en fait, ici, vous avez des pièces à tous les stades.
Il faut dire donc notamment sur les objets plutôt à art de la table qu'il y a tout un travail graphique dans des teintes bleutées. Je voulais vous demander quelles étaient vos inspirations comme point de départ à la création d'un objet.
Ça doit être complètement inconscient. En revanche, un point qui me semble intéressant, c'est que je travaille toujours avec les deux mêmes émaux. Et donc, vous parlez graphisme, mais effectivement, ma recherche consiste à toujours trouver de nouvelles techniques de pose pour avoir des effets différents et donc des graphismes différents. Donc, je peux travailler avec des pinceaux, je peux travailler avec de la projection, je peux travailler avec des pochoirs. Donc, j'ai pas une seule technique et parfois, je teste des choses tout à fait improbables. Les résultats sont parfois convaincants, parfois moins convaincants. Mais si vous voulez, l'idée, c'est toujours de trouver de nouveaux graphismes, en fait. Et donc, l'intérêt d'utiliser toujours les deux mêmes émaux, c'est que vous avez une cohérence en termes d'esthétique, c'est-à-dire que toutes les pièces les unes à côté des autres fonctionnent tout à fait bien. En revanche, vous avez une diversité en termes de graphisme, puisque chaque pièce est différente de l'autre. Et même avec le même graphisme, on peut dire, la pièce va être différente, puisque c'est jamais fait strictement de la même manière.
Quelle place prend cette activité dans votre quotidien ?
Ah, ça prend une très grande place parce que déjà quand vous vous levez le matin, vous arrivez dans votre salle à manger et vous avez à côté l'atelier. Donc éventuellement, je peux même travailler une heure ou deux le matin avant de faire quoi que ce soit. Et puis si j'ai des tâches à faire particulières qui vont me prendre peut-être une demi-heure en fin de journée, je peux travailler même assez tard pour faire ces tâches qui nécessitent démouler quelques pièces ou faire un travail qui va pas être très long, je peux m'y remettre assez tard le soir. Donc c'est vrai que c'est très prenant parce que c'est quasiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et l'autre élément, si vous voulez, c'est que pour vendre mes pièces, je fais des marchés de potiers, je fais des salons et j'ai également des pièces qui sont en dépôt dans des boutiques. Et donc le fait est que enfin, ça commence, on va dire, à peu près en mars, avril, et ça se finit en décembre. Et donc, généralement, vous êtes pris le week-end pour ces marchés, ces salons. Et donc, quasiment, vous travaillez toute la semaine, vous travaillez le week-end également. Alors, c'est bien sûr, c'est pas tous les week-ends, mais c'est vrai que c'est très, très prenant. Par exemple, on part pas en vacances l'été, on peut pas. En hiver non plus d'ailleurs, puisque là en fait je viens de faire les arts du feu et c'est vrai que donc c'était le dernier événement de l'année. Donc on voit que ça va jusqu'à assez tard dans l'année.
Sur la partie création, dans quel état vous vous sentez quand vous créez ? Est-ce que c'est un moment où il y a une forme de vide dans l'esprit ou au contraire où on traverse plein de pensées ?
Il n'y a pas de règle par rapport à ça. Il y a des fois effectivement c'est une ébullition. Je dirais que c'est une ébullition quand je cherche de nouvelles idées, quand je fais des nouveaux tests. Et puis, je me pose beaucoup de questions de savoir si ça va fonctionner, si ceci, si cela. Enfin, c'est... Et en revanche, quand j'utilise une technique que je fais depuis longtemps, là, c'est plutôt zen et puis les choses s'enchaînent. Mais je dirais que le dénominateur commun, et c'est ça qui est extrêmement agréable dans cette activité, si vous voulez, c'est que bon, quand j'émaille les pièces, j'utilise deux émaux, donc un qui est blanc et l'autre qui va donner bleu foncé noir à la cuisson, mais qui est gris finalement quand je le pose. Donc je sais à peu près ou assez précisément ce que va donner le résultat. En revanche, quand j'ouvre mon four et que le gris est devenu bleu beaucoup plus foncé, là c'est là que toute la pièce se révèle et c'est là que c'est super intéressant et je dirais que c'est quasiment c'est Noël tous les jours quand on ouvre le four, quoi. C'est ça qui est agréable.
Est-ce qu'il y a un objet que vous avez créé et qui a une histoire particulière, soit parce que vous l'avez créé dans des conditions particulières ou parce qu'il était destiné à une demande particulière ?
J'ai créé une pièce, une sculpture qui s'appelle la quadrature du cercle, qui est en porcelaine. Et donc, je suis partie en fait d'un cube que j'ai fait en porcelaine, creux bien entendu. Et en fait, à partir de ce cube, je voulais tendre vers une sphère en fait. Et donc, en ajoutant, en collant des tout petits carrés que j'avais découpés de 1 cm sur 1 cm au maximum et de 1 mm d'épaisseur. Et donc, en mettant plein, je suis arrivée à faire une sphère, évidemment, qui n'est pas totalement fermée, puisque autrement, la sculpture ne présenterait aucun intérêt. Et donc, et cette pièce, je l'ai faite au moment du Covid, pendant le confinement. Et donc, j'ai bien dû passer un mois sur cette pièce, quoi. Donc, il y a aussi bien, enfin, à tout point de vue, aussi bien le nom de la pièce et la situation à ce moment-là, je pense que c'est la, peut-être, et puis, à tout point de vue, parce que c'est une pièce assez complexe, donc, qui est assez emblématique et de la période et de mon choix.
Je me demandais si votre travail, mais aussi finalement le fait d'acheter certaines de vos pièces de la part de clients, vous percevez ça un peu comme une forme de résistance dans un monde où beaucoup d'objets qui nous entourent sont issus de production industrielle de masse.
Tout à fait. En préambule, par rapport à votre question, j'aimerais dire que, alors, je ne vends pas mes pièces à 3 ou 4 euros, bien entendu, mais j'ai à cœur d'avoir des prix raisonnables. Pour que les personnes, même qui n'ont pas de très gros moyens, peuvent s'offrir une petite tasse ou un petit bol. Et c'est vrai que ça me fait plaisir quand les gens reviennent d'une année sur l'autre, sur un salon par exemple, me dire qu'est-ce que c'est agréable de boire mon petit café tous les midis dans votre tasse. Et effectivement, ça me fait plaisir. Pour aller un petit peu plus loin par rapport aussi à la réaction des gens, certaines personnes sont un petit peu... on va dire, sans voix devant mes pièces et me disent mais qu'est-ce qu'on est touché par vos pièces, qu'est-ce qu'on est touché. Bon, ça m'interroge aussi, je me dis mais pourquoi elles sont touchées à ce point. Mais j'ai vu des personnes vraiment très très émues devant mes pièces et ça je trouve ça beau, même si de ma part c'est complètement inconscient d'offrir ce genre de réaction aussi.
Est-ce que vous avez pu connaître des émotions face à des objets?
Forcément. Vous avez parfois quelque chose qui vous interpelle, que vous ne savez pas pourquoi, mais et c'est vrai que quand les gens sont devant mon stand, je leur dis est-ce qu'il y en a, il y a une pièce qui vous parle plus qu'une autre. Et je crois que c'est ça, c'est que les objets, quand vous regardez un objet, même utilitaire, comme un bol ou une tasse, vous en avez un qui va vous attirer. Vous ne savez pas pourquoi, mais ça va être celui-là.
Merci à Catherine Trochu de m'avoir reçue dans son appartement atelier. Un plaisir pour les yeux de voir tous ces objets qui nous entouraient. On poursuit et termine l'émission avec la traditionnelle chronique de la Cimade de Rennes. Colline et Marion, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes toutes les deux intervenantes juridiques au CRA, le centre de rétention administrative de Rennes. Pour la CIMAD, cette association de soutien aux personnes exilées, on vous reçoit régulièrement sur Canal B pour donner à entendre ce qu'il se joue entre les murs de ce centre de rétention administrative, aujourd'hui sous la forme d'un témoignage.
Marie et Gabin sont en couple depuis 4 ans. Lui est arrivé en France en 2002, quand il avait 5 ans. De cet amour est née une petite fille, Isa. Elle a 1 an et demi quand son père est enfermé au centre de rétention administrative de Rennes. la préfecture du Calvados veut l'expulser en Angola. Si Gabin échappe de justesse à l'expulsion, il restera enfermé 75 jours derrière les grilles du CRA. Sa compagne et sa fille n'ont pu venir le voir qu'une seule fois. Marie nous a donné son témoignage.
Quand j'ai vu qu'il était parti là-bas, au CRA, j'étais au plus mal. Je pensais qu'il allait rentrer à la maison, et en fait pas du tout. Ça m'a mis un coup. C'est compliqué pour moi d'aller le voir. J'ai pas le permis et j'ai 8 heures de train. Moi, toute seule, ça va, mais avec la petite, c'est très compliqué. Du coup, j'ai pu aller le voir qu'une seule fois. Quand je suis allée le voir, j'ai attendu une heure devant les grilles. Je me suis fait fouiller à même le corps, ça fait bizarre. Même le lieu, l'odeur est vraiment étrange. Je suis arrivée à 15 heures, ils m'ont fait rentrer vers 16 heures, mais j'avais un train vers 17 heures, donc j'ai pu rester seulement 40 minutes. Je suis partie à 10 heures du matin de la maison, et je suis rentrée, il était quand même 22h30. 40 minutes de visite pour 8 heures de trajet. Je n'ai pas pu profiter vraiment de lui. J'avais toujours en tête que ça pouvait être la dernière fois que je le voyais. Il a au moins pu jouer avec la petite, ils ont lu un livre. De le voir là-bas, ça m'a fait bizarre. Ça m'a vraiment brisé le cœur de me dire qu'à tout moment, ça pouvait être la dernière fois qu'on se voyait. Ça affecte beaucoup, que ce soit moi, sa famille, sa fille, sa mère, sa sœur, même ses amis. Ça a été un choc de savoir qu'il risquait d'être expulsé. Moi, je dois rester forte, je dois garder le mental pour notre fille. À sa sortie de prison, je devais lui faire la surprise d'aller voir ses parents avec la petite. On devait aller sur Paris pour qu'on se retrouve tous, mais du coup, ça n'a pas pu avoir lieu. De base, il n'aurait pas dû se faire emprisonner. Il était au mauvais endroit, au mauvais moment. On venait d'apprendre que j'étais enceinte, on était super heureux, et finalement, j'ai dû vivre ma grossesse toute seule. Mais on s'appelait tous les jours à la cabine. S'il n'était pas là physiquement, il a été d'un grand soutien mentalement. Quand j'ai des craintes, quand j'ai un peu moins confiance en moi, il me rebooste, il essaie de faire au mieux. À sa sortie de prison, je me disais que j'allais pouvoir enfin souffler, qu'il allait être avec nous. Ça fait 4 ans que nous sommes en couple. Jamais de la vie, je me suis dit que j'allais vivre ça. J'espère vraiment qu'il va revenir. Me dire que la petite grandira sans son papa, c'est pas faisable. Même s'il n'a pas d'interdiction de revenir en France, le temps de faire un visa et de payer un billet d'avion, et en plus il n'a nulle part où aller là-bas. Ils ne se rendent pas compte de renvoyer des gens comme ça dans l'inconnu. Il m'appelle tous les jours et m'envoie des messages avec le téléphone qu'il a eu au centre de rétention. Même s'il m'envoie des messages, je préférais l'avoir à mes côtés. Il m'a envoyé tout l'argent qu'il avait depuis la prison, il n'a plus rien. Il pense à nous avant lui, il pense toujours aux autres avant lui. C'est quelqu'un de formidable. Ce n'est pas comme si c'était quelqu'un de méchant. Je ne veux pas me faire à l'idée que je ne le verrai plus.
Curiosité, c'est terminé. Un programme d'info locale à écouter du lundi au vendredi à 17h40. Et pour les podcasts, ça se passe en ligne sur canalb.fr.